Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes dans quelques instants, dans une petite demi-heure, au Portugal, un pays absolument magique, soleil, gens adorables, montagne, plage, tout ce qu'il faut. On va en parler tout à l'heure à partir après le flash. Juste à l'instant, nous sommes à Lyon, en compagnie d'Éric-Emmanuel Schmitt, qui en parle merveilleusement. Vous en parlez tellement bien, Éric-Emmanuel, qu'on risque de tous avoir envie de partir avec vous. C'est ça le problème. Si, sans vous, ça doit être un peu nu, Lyon.
Non, vous en faites pas. La ville tient le coup.
Nathalie, il y a un personnage dont on ne peut pas ne pas parler à propos de Lyon, c'est de Guignol.
Oui, alors... Vous avez vu, je fais bien les petites marionnettes avec les mines.
On est à la radio, vous savez.
Oui, on est filmé quand même. Alors, c'est vrai que des décennies avant Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, il y a un Lyonnais, alors on est au 18e siècle quand même, je précise, il s'appelait Laurent Mourguet, qui a inventé ce personnage de Guignol. Et le nom, alors là je parle sous contrôle d'Éric-Emmanuel Schmitt, bien sûr, je crois qu'il a consacré même un ouvrage à Guignol. Le nom lui aurait été inspiré par son voisin, un certain Jean Chignol, ou alors, il y a une autre théorie, ce serait une déformation de l'expression « guigner de l'œil » qui signifie « regarder en coin » parce que Guignol surveille en permanence l'arrivée du gendarme.
Ah, c'est dingue ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Éric-Emmanuel Schmitt? Quelle est la bonne explication?
Non, mais les deux sont bonnes parce qu'on ne prête qu'aux riches, même quand le riche est pauvre. Et Guignol, c'est un personnage qui évidemment est un espèce de support de fantasme dans lequel tout enfant se reconnaît parce que il a l'insolence de l'enfance, il pose les vraies questions, rien ne va de soi. Enfin, c'est toujours celui qui demande pourquoi et comment et qui en même temps est plein de joie de vivre et plein d'allégresse pour découvrir le monde. Donc, on ne peut pas ne Et je précise que le gendarme en question, c'est un idiot. Hein. C'est pas,
mais
c'est pas parce qu'il est gendarme, c'est parce qu'il est idiot. Guignol, c'est un personnage très vif, très intelligent, qu'a créé Laurent Mourguet, qui est d'ailleurs né dans le village où je suis né, Sainte-Foy-lès-Lyon.
Je reviens à l'histoire justement de cet inventeur, Laurent Mourguet. C'était un ouvrier en soie, comme on disait, hein, un canu, donc une famille très modeste. Il avait 10 enfants, il ne savait ni lire ni écrire, et donc sa condition de canu ne suffit pas à faire vivre sa famille. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va partir sur les routes comme marchand forain, puis il va se mettre comme arracheur de dents. Mais oui, mais évidemment, la patientèle, elle pousse des cris épouvantables, ça fait fuir tout le monde quand il arrache une dent avec ses tenailles. Donc pour attirer une nouvelle clientèle, il a l'idée d'utiliser la marionnette de Polichinelle, donc un personnage de Commedia dell'arte, pour distraire ses patients pendant l'arrachage de dents.
Ah, c'est étonnant, ça.
Et puis ça marche très fort, il y a du succès, donc vers 1804, il va abandonner ce métier de chirurgien-dentiste improvisé et il s'installe avec son castelet. Un castelet, c'est un petit théâtre dans la grande allée des Brotteaux, au milieu du jardin, le petit Tivoli. Là encore, c'est un succès. Et petit à petit, il invente ses personnages de Niafron, puis de Guignol, ce duo mythique de personnages purement lyonnais. Donc, Gnafron, qu'on connaît évidemment
qu'on connaît moins bien,
absolument, qui est un savetier, un grand amateur de Beaujolais, au passage.
Moi, je ne me reconnais plus.
Oui, mais vous avez ni la bouche édentée, ni le nez, les joues écarlates comme Gnafron. Par contre, vous avez peut-être le tablier de savetier, parce qu'il est cordonnier. On dit alors un regrôleur, celui qui répare les grôles. Alors, c'est vrai que ce sont deux comparses, en haut en couleur. Guignol, lui, a plus un peu la langue bien pendue. Hein. Il utilise le parler lyonnais, les expressions truculentes. Et surtout, et ça c'est très important, il dénonce l'injustice sociale en prenant le parti des petites gens. Il est très identifiable, il a toujours sa tavelle, hein, c'est un bâton de bois à la main. Et puis il porte ce long catogan, vous savez, c'est un nœud qui retient les cheveux. Il y a une raison à cela, c'est parce que c'est un canu. Et pour éviter que les cheveux ne se prennent dans le métier à tisser, il fallait attacher les cheveux sur la nuque en catogan. Est-ce que je dis des bêtises, Éric-Emmanuel Schmitt? Rassurez-moi.
Non, pas du tout. Non,
bon,
non,
alors
tout
va bien. En tout cas, cette marionnette devient l'emblème des Lyonnais, l'ambassadeur, hein, véritablement Guignol, de la ville de Lyon dans le monde entier. Ça s'exporte très bien. Et il faut comprendre qu'au départ, ce qui est un spectacle pour adultes devient ensuite un succès pour les enfants, mais très tardivement, seulement dans les années 50 en réalité. Ça passe... Ça glisse du monde des adultes à celui des enfants, mais c'est toujours la truculence lyonnaise.
Ah, c'est une belle histoire, je ne savais pas tout ça. Les expressions truculentes lyonnaises, et Eric Emmanuel Schmitt, vous en avez des préférées ?
C'est plutôt des façons de parler, moi, qui me plaisent. C'est « en descendant, montez donc ». Vous verrez le petit comme il est grand. Ou alors Guignol qui habite sans moine, rue de la Grand-Côte. C'est pas un patois, c'est une façon d'aborder le français. Par exemple, s'endormir, c'est pas tomber dans les bras de Morphée, c'est tomber dans les bras de l'Orfraie.
Voilà. C'est pas mal.
Tout est un petit peu décalage comme ça. Ouais. C'est un goût de l'insolite.
Ouais. Nathalie, une petite info sur Lyon encore assez incroyable. C'est, franchement, peu de gens le savent, c'est que ce serait une ville extraterrestre.
Oui, on dirait pas comme ça avec une ville ancienne, une ville bourgeoise, hein, comme on dit parfois. Et pourtant, Lyon et les extraterrestres, c'est une véritable histoire. À tel point que la ville pourrait accueillir la première ambassade extraterrestre de France. Je m'explique. Direction le Moyen-Âge. Nous sommes en 832 et il y a un char volant, traduction vaisseau spatial bien sûr, aurait été aperçu au-dessus de la place Bellecour avec trois individus, hommes et femmes, qui s'en échappent. Ils racontent avoir été enlevés alors qu'ils travaillaient dans les champs. Ils auraient fait un voyage à travers les cieux jusqu'à des planètes désertiques. Évidemment, personne ne les croit. Ils sont accusés de sorcellerie. C'était chaud à l'époque, hein, autant vous dire, d'être accusés de sorcellerie. Finalement, ils sont graciés par l'évêque local, mais on ne les revoit jamais. Et puis, rebelote, nous sommes le 12 octobre 1621, une lumière vive, des éclairs illuminent la nuit noire au-dessus de la place Bellecour. C'est une heure de spectacle devant plus de 500 témoins ébahis. Et certains parlent alors d'une montagne de pierre, d'autres d'un château arrondi et rebondissant dans le ciel lyonnais. Je ne sais pas s'ils avaient abusé du Beaujolais, personne n'en sait rien.
Si, c'est assez clair.
Mais à cause d'eux, les Raéliens ont choisi en 2015 la place Bellecour pour proposer d'y installer la première ambassade extraterrestre de France. Évidemment, un projet pour la modique somme de 34 millions d'euros qui aurait pour but d'accueillir le retour d'OVNI à Lyon, un vrai scénario de film.
Pas mal, pas mal. On sera là en tout cas. Hein, si
oui,
ça se produit,
on les attend.
On s'organisera.
Le Beaujolais à la main.
Merci beaucoup Nathalie.